J'ai vraiment à cœur de vous partager ce que je veux vous partager aujourd'hui. C'est quelque chose que je porte comme vision dans mon cœur depuis plusieurs mois. En fait, depuis le mois d'octobre dernier. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on a signé l'offre avec le différent contractuel, déjà Dieu commençait à faire germer des choses sur mon cœur. Puis j'ai vraiment à cœur de vous partager ce que je vous partage ce matin. Je dis pas que j'ai pas à cœur les autres fois que je vous partage des messages, inquiétez-vous pas, là, je les ai à cœur quand même, là. Mais il y a quelque chose qui résonne dans mon cœur de particulier pour le Carrefour, pour nous. Et puis cette histoire-là de, tu sais, on chantait, il est là dans le feu, là. Je peux vous dire, il n'y a pas une église dans la province qui sait chanter ce chant-là comme nous autres. C'est incroyable, là. Moi, quand je chante ce chant-là, je capote parce que je me rappelle qu'il était avec nous quand tout brûlait. Je me rappelle qu'il était avec nous quand finalement on s'est rendu compte qu'il ne resterait plus rien à part un lave-vaisselle puis une échelle. Puis de la vaisselle, oui. Et je me rappelle encore aujourd'hui que non seulement il est présent au présent de l'indicatif, mais on se rend compte que 7 ans plus tard, 7 ans et demi plus tard, il sera encore présent avec nous. Et ça, c'est un drôle de chant chanté, mais en même temps, c'est tellement fort. Et il y a cette idée que Dieu place des saisons dans notre vie. Et j'aime le fait que Dieu place des saisons dans nos vies. Peut-être que certains ne seront peut-être pas d'accord parce que peut-être que la saison dans laquelle vous êtes présentement n'est pas la saison dans laquelle vous aimeriez être. Mais j'aime l'idée que Dieu place des saisons dans nos vies. Et la question que je vous pose, c'est dans quelle saison êtes-vous? Bonne question. Dans quelle saison êtes-vous présentement? Alors là, il y en a qui rient puis qui disent, si tu savais, pasteur, c'est quoi la saison? C'est épouvantable. Puis il y en a d'autres que ils n'ont même pas réfléchi à ce que ça soit une saison parce qu'ils vivent juste des choses positives puis ils ne savent même pas que c'est une saison parce que c'est juste comme ça. Puis il y en a d'autres justement qui sont dans des saisons de deuil, des saisons de toutes sortes. Et moi, dans ma vie, j'ai vécu des saisons de formation, j'ai vécu des saisons d'apprentissage, des saisons de récolte, des saisons de survie, des saisons de révélation, des saisons de provision, des saisons où tout avance, des saisons où rien avance, des saisons d'attente, des saisons où est-ce qu'on est en mode attaque, des saisons où on est en mode défense, des saisons qu'on construit, des saisons qu'on rénove, des saisons qu'on pleure, des saisons de réflexion, des saisons de joie. Dans quelle saison êtes-vous ce matin? Et là, je vous laisse mijoter. Et savez-vous quoi? C'est la même chose pour les églises. Les églises vivent des saisons. Et savez-vous quoi? C'est comme ça que Dieu a même instauré l'univers dans lequel on est. Il l'a créé avec des saisons. Il l'a créé avec des temps frettes, comme aujourd'hui. Si vous êtes un néo-québécois, vous n'avez pas encore entendu c'est quoi le mot frette. Quand il fait moins 30 et plus froid, les Québécois disent « il fait frette ». Lorsqu'il fait moins 29 et plus chaud, on dit qu'il fait froid. Il y en a des fois que c'est plus à moins 20 qui trouvent ça frette. Des fois, le thermomètre est élastique. Mais quand il fait vraiment très froid, on va utiliser l'expression « il fait frette ». Et il y a toutes sortes de saisons, même dans la vie de l'Église. Et si vous réfléchissez, récemment, on a quand même célébré notre 50e anniversaire en tant qu'Église. Et il y a eu toute une célébration avec, justement, toutes sortes de saisons. Puis je me rappelle et je me réjouis du fait que Dieu est le champion des histoires. Il bâtit des histoires qui ne sont pas monochromes, qui sont avec plein de couleurs, plein d'événements différents qu'on n'attend pas. Avec plein de choses à gauche et à droite, il est le spécialiste des histoires. Et quand on lit les Écritures, on voit à quel point Dieu travaille à travers les histoires des uns et des autres. Quand Michel parlait que parfois les faibles confondent les forts, si vous regardez dans l'Écriture, vous allez avoir une tonne d'histoires de gens qui étaient destinés à être faibles et que finalement Dieu se plaît à utiliser d'une manière forte. On pense à David, on pense à Gédéon. On pense même à l'aspect très humble de Jésus qui arrive sur terre. Et la vie de chacun d'entre nous, l'histoire de chacun s'entremêle pour former une grande toile que Dieu a planifiée et que Dieu se plaît à construire l'histoire des uns et des autres. Alors l'histoire est faite de saisons, de moments, de développement, d'opportunités, de peines, de défis. Et je vous dirais que j'ai appris à plutôt que de lutter contre les saisons, j'essaie d'apprendre de mieux les discerner. Il y a des fois où est-ce qu'on s'attache à des saisons et on a besoin de discerner que la saison est finie. Discerner, c'est pas dire « je suis dans une saison de tristesse, donc ma vie complète sera une saison de tristesse ». Parfois, Dieu nous appelle à discerner quand c'est le temps de sortir de la saison de tristesse. Ça va? Les saisons, ce n'est pas une fatalité, parce que Dieu se plaît à les changer régulièrement. En fait, notre rôle, c'est plus de discerner la saison dans laquelle on est. Et si on a à pleurer, vous savez quoi? Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont dans la joie. Hein? Si tu es dans la joie, réjouis-toi avec ton frère. Hein? Et l'idée, c'est de discerner la saison. Et honnêtement, il y a un temps pour toute chose, comme dit l'Ecclésiaste. Et ma réflexion, c'est quoi la saison? C'est quoi l'élan de notre Église? C'est quoi notre élan pour le Carrefour? C'est quoi la saison de Dieu pour ma vie, pour notre vie comme assemblée? Parce qu'il se pourrait que l'élan pour l'Église ne soit pas le même élan personnel. Vous avez compris ça? Oui? Dieu se plaît à entremêler des histoires, et savez-vous quoi? Dans une même famille, tout le monde n'est pas toujours dans une saison de joie. Tout le monde n'est pas toujours dans une saison de récolte. Tout le monde n'est pas dans une saison de réflexion, etc., etc. Alors, ce matin, je veux vraiment asseoir mon message avec les Écritures en utilisant l'histoire de Joseph du livre de la Genèse. Et je crois que Joseph est un excellent exemple de saisons différentes, mais avec une stabilité à plusieurs égards. Et ce matin, ce sera une prédication un peu différente. Il y aura une annonce qui sera faite à travers. Alors, suivez-moi ce matin. Mais je pense que aussi c'est un message un peu différent parce que ça annonce un peu nos couleurs pour les prochains mois. Pour les prochains mois, prochaines années, ben on discernera la saison dans laquelle Dieu nous place à ce moment-là. OK? Ça vous va? Soyez pas effrayés, il y a des belles choses qui s'en viennent. Amen? Vous êtes OK, on est-tu d'une saison de broyage pour tout le monde? Quand c'était le feu, la réponse c'est oui. Nous avions besoin de faire le deuil. On avait besoin de faire ça. Et il y a d'autres moments où est-ce que ce n'est pas le temps de faire ça. Amen? Je ne sais pas si vous êtes là. Alors, voici l'angle que je veux utiliser de la vie de Joseph, et on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. La vie de Joseph, je vais utiliser cette idée de briller en tout temps. Je vais utiliser cette idée qu'il y a un rayonnement qui est différent selon les saisons. Je vais utiliser aussi l'idée qu'il y a un environnement qui change, mais qu'à travers tout ça, il y a un Dieu qui est pleinement constant. Amen. Alors, on va plonger dans quelques événements de la vie de Joseph quand même assez rapidement. Je ne vous raconterai pas toute l'histoire. J'espère que vous allez entendre cette histoire-là, vous allez ouvrir la Genèse, puis vous allez lire l'histoire au complet, parce qu'il y a toutes sortes de rebondissements, il y a toutes sortes de belles choses que Dieu fait à travers l'histoire, les hauts et les bas de Joseph. Et puis, j'espère que ça vous donnera le goût d'aller plus loin. Alors, on commence dans Genèse 37. Si vous avez votre application, votre Bible, restez avec moi dans Genèse. On va pas mal être là pendant une bonne partie du message. Alors, Genèse 37, versets 9 à 11, j'utilise la version second 21. Ça veut dire ceci, Joseph est dans un bas âge. Joseph fit encore un autre rêve et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et ses frères et son père lui fit des reproches et lui dit, « Que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? » Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. Alors, il y a un jeune homme qui fait des rêves qui viennent de Dieu. Et ce jeune homme-là est dans son environnement familial. Et pour dire vrai, même s'il reçoit des révélations de Dieu, il ne brille pas pantoute. En fait, il fait son arrogant. Et son immaturité va briser même cette idée de la... Elle ne brisera pas le message de la révélation, mais va briser la réception de cette révélation-là pour ses frères, son père, sa mère et sa famille. Et c'est intéressant de voir qu'on peut recevoir des révélations puissantes de Dieu, frères et sœurs. Que ce soit dans des rêves, que ce soit à travers la prière, que ce soit dans des temps de jeûne et prière, on peut recevoir ça tout en n'étant pas du tout une lumière. Puis ça devrait nous faire réfléchir. La révélation de Dieu n'est pas synonyme que nous sommes une lumière complète. La révélation de Dieu, c'est Dieu qui travaille l'histoire. C'est Dieu qui continue d'avancer dans son plan. Et là, mais Dieu a quand même, à travers ce moment-là, révélé une partie de son plan à Joseph. Et là, lui, Joseph est dans une saison de conséquences graves. Parce qu'il fait son... Je vais utiliser une expression québécoise, il fait son fendant. Les gars, vous allez vous prosterner devant moi. Je suis le plus jeune, mais... Vous comprenez un peu l'approche, là? Et puis, ses frères sont sont jaloux, puis ils sentent l'immaturité du jeune au point qu'ils vont faire en sorte qu'il va être comme laissé pour mort. Ils vont faire croire à leur père qu'il est mort, puis ils vont le vendre à des marchands d'esclaves qui s'en vont loin dans le coin de l'Égypte. Parlez d'une conséquence grave, hein? Il y a des gens fendants qui n'ont pas eu ces conséquences-là, hein? Mais lui vit cette conséquence grave-là. Il est d'une saison de conséquences, puis il ne brille pas du tout. Mais savez-vous quoi? Je pense que Joseph a appris de cette expérience-là. Et on continue l'histoire. Il se ramasse dans Genèse 39, et ça veut dire la chose suivante. Quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte, et Potiphar, l'officier du Pharaon, qui était chef des gardes d'un Égyptien, l'avait acheté aux Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Alors là, Joseph est dans un environnement différent. Il n'est pas dans un environnement familial. Il est dans l'environnement d'une maison, d'un riche bonhomme, d'un gars puissant. Et puis, mais il est esclave. Sa condition, c'est qu'il est un esclave. Et ici, on voit que malgré son statut, il était fils bien dans sa famille, il ne brillait pas. Là, il est esclave, puis tout d'un coup, on voit que ça brille fort, son affaire. C'est-à-dire que même en tant qu'esclave, le maître voit tellement la faveur de Dieu qu'il lui confie tous ses biens, parce qu'il avait confiance. Et je devine que ça s'est construit pas en un mois, pas en deux mois, en plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Et puis là, on ne peut pas appeler ça un contexte idéal quand même, là, hein? Vous comprenez que tu restes esclave dans un pays qui n'est pas le tien, tu es loin de ta famille, loin des tiens, mais Dieu est constamment avec lui et il rayonne. Et je veux vous faire remarquer que le rayonnement de Joseph ne se fait pas sur l'Égypte, mais se fait de façon locale dans la maison de ce maître-là. Il rayonne dans une maison. Et savez-vous quoi? C'était la saison dans laquelle il était. C'est la première saison c'est une saison de faveur. Pour la première fois, c'est comme s'il y a cette faveur-là auprès des autres. Il y avait la faveur de son père. Son père, c'était son chouchou. Le jeune était son chouchou. Mais là, il arrive dans une saison où est-ce que c'est Dieu lui accorde une faveur parce que tout lui réussit, puis son maître lui donne plein de responsabilités et ça marche, les affaires. Mais la femme de Potiphar se met à avoir un œil dessus, jalousie, convoitise, faussement accusé, il rayonne, puis il pige une carte chance au Monopoly. Ne passez pas go, allez directement en prison. Et là, il se ramasse en prison. En prison, injustement, pour avoir fait le bien, pour être resté intègre, bang, la mauvaise carte sort, se joue, et puis là, il se ramasse en prison. Et là, on voit dans Genèse 39, un peu plus tard, alors, il s'empara de Joseph, le mit en prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il restait donc là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et tendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison et tout ce qu'on y faisait passait par lui. Moi, ça me fait rire ce passage-là parce que quand on entend nos prisons québécoises, quand on entend quelqu'un que tout passe par lui, habituellement, c'est la dope qui passe par lui. Mais là, ici, c'est pas ça. Ici, c'est vraiment le contexte dans lequel Joseph est en prison. Il fait partie des prisonniers, mais finalement, à cause de la faveur de Dieu, ce Dieu constant qui est avec lui, finalement, il réussit à rayonner d'une façon incroyable. Incroyable. Remarquez l'environnement qui change de façon drastique. Tu es dans la maison d'un des chefs des Égyptiens. Tu te ramasses d'une prison. Vous savez qu'ils n'ont pas le câble, hein? Puis 4 repas par jour dans ces prisons-là. On se comprend que ce n'est pas les prisons de notre époque, là. Il y a quelque chose de vraiment précaire dans cette idée d'être emprisonné. mais il brille fort dans un milieu injuste. Et c'est drôle parce que nous autres, on voit ça et on dit « Waouh, il a rayonné! » Mais réfléchissez à son lieu de rayonnement. Vous savez, les médias ne partageaient pas les nouvelles de la prison du coin. Hein? Son rayonnement était uniquement à l'intérieur de la prison, avec les autres prisonniers, les autres co-détenus, ses rejets peut-être ou ses criminels des Égyptiens. Et lui, il rayonne. Il y a un rayonnement différent dans le contexte qui est le sien. Et honnêtement, il reste longtemps comme prisonnier et c'est une saison d'attente pour Joseph, même si tout marche. Et là, il y a des petits soubresauts avec des gens proches de lui. Je vous laisse lire cette histoire-là, vous donner les détails. Mais quand même, c'est une saison d'attente interminable pour quelque chose qu'il n'a jamais commis. C'est une injustice. Et ça, ça devrait nous faire réfléchir qu'on doit briller en tout temps, même quand c'est injuste. Quand c'est injuste à ton travail, parce que tes collègues ou ci ou ça sont traités avec favoritisme ou tout ça, est-ce que tu plonges dans cette espèce de revendication que c'est pas juste ou tu décides de briller? Quand dans ta famille, des gens qui ont dit toutes sortes de choses, est-ce qu'on est dans l'amertume où on brille, où on tente de briller, où on fait tout pour briller pour le Seigneur? Joseph est un exemple extraordinaire de ça, dans cette idée de briller en tout temps. Et là, la chose continue, l'histoire continue, Genèse 41, le pharaon fait un rêve puis capote. Alors, voici ce qui se passe au verset 14 à 16. Le pharaon fit appeler Joseph. Il est en prison, de prison à devant le pharaon. C'est quand même pas pire, hein? On s'empressa de le faire sortir de prison. Il se rasa, changeant de vêtements, et se rendit vers le pharaon. Le pharaon dit à Joseph, « J'ai fait un rêve. Personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris à ton sujet que tu peux expliquer un rêve après l'avoir entendu. » Alors Joseph répondit, « C'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au pharaon. » On passe au verset 39, parce que là, il interprète le rêve. Verset 39, « Et le pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Tu fais comme « Wow! » Vendu à des esclaves, dans une maison quand même avec un haut dirigeant égyptien, on s'en va en prison, puis là, tu as pogné la carte chance. Une erreur de la banque s'est faite en votre faveur, recevez 200 $. Ça, c'est comme, ça vient de nulle part. Et là, il est maintenant dans un environnement différent. Et il est appelé à briller dans cet environnement-là, c'est l'environnement de la maison de Pharaon. Et là, ce qu'on comprend, c'est que son rayonnement est différent. C'est-à-dire qu'il ne brille pas uniquement dans la prison, il ne brille pas uniquement dans une maison, mais il va briller pour une nation. Et là, c'est comme, est-ce que le cœur de Joseph a changé à travers les saisons? Bien, à part le début, il est resté constant. Le rayonnement a été différent, pas parce que Joseph a décidé, je prends mon avenir en main, maintenant j'irai voir le pharaon. Puis ça, il a la tête coupée s'il fait ça. Il y avait des saisons. Il y avait des saisons dans lesquelles le rayonnement était différent d'un endroit à l'autre. C'est normal. C'est quelque chose qu'on voit de façon évidente dans ce passage-là. Et d'un rayonnement privé marginal, il est à la tête de la maison de Pharaon. Dieu est constant et il rayonne. Et là, il se ramasse dans une saison de faveur inimaginable. Et là, l'histoire continue et c'est là la beauté du cycle des histoires, de l'enchevautrement. Ça se dit-tu ça? Ouais, pas pire. L'enchevautrement des histoires. Et puis là, on arrive dans Genèse 45, sa propre famille. La famille qui, au départ, disait « Vous allez vous être prosterné devant moi. » Je pense que j'ai peut-être fait ça à mes sœurs. Pas de leur dire ça, mais tout d'être un peu baveux, là. Mais moi, j'étais le plus vieux, j'étais le plus grand, fait que bon. En tout cas. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a une famine. Puis là, les frères se pointent en Égypte pour avoir de la bouffe parce qu'il n'y en a pas. Alors, Genèse 45, on l'a à l'écran. Et là, il y a toute une histoire que je vous laisse lire. Mais là, ça va dire, Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, il ne l'avait pas reconnu, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. » Les histoires qui s'entremêlent, c'est de toute beauté. Et là, Joseph est dans son environnement familial 2.0. Il y a une deuxième chance de faire ce qu'il n'avait pas fait la première fois. La première fois, il avait pris un air hautain suite aux révélations de Dieu. Mais là, vous comprenez qu'il a interprété le rêve. Là. Il y en a eu d'autres révélations de Dieu. Mais là, cette révélation de Dieu là, ne mène pas à vouloir être hautain, mais au contraire, l'amène à faire quelque chose qu'il aurait dû faire dès le départ. Il va dire à ses frères quoi? « Hey! Si vous m'avez vendu, Dieu savait et il voulait que dans la saison dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ce soit moi qui vous donne le pain pour que vous viviez. » C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Joseph a une deuxième chance de briller dans sa famille, puis vous savez quoi? Il ne manque pas son coup. Il aurait pu se venger, il aurait pu leur faire la leçon, il aurait pu faire toutes sortes de choses. Et savez-vous quoi? On aurait tous pensé à ce qu'on aurait pu y faire à cause de tout le mal qui avait été suscité. Mais non seulement il brille, mais il interprète le plan de Dieu, non comme le jeune Joseph, mais avec la version 2.0 de Joseph. « Dieu m'a fait passer par toutes ces choses pour vous sauver la vie. » Et on se comprend que c'est une saison de réconciliation pour Joseph. Briller en tout temps. Un rayonnement différent, puis savez-vous quoi? Il y a des gens dans notre société qui font tout pour marcher sur la tête de tout le monde pour essayer de rayonner. C'est pas de ça qu'on parle ici. La vie chrétienne n'est pas de marcher sur la tête des uns et des autres pour essayer de se gonfler le torse pour être fier. La vie chrétienne, c'est de briller exactement là, dans l'environnement où est-ce qu'on se trouve. Et ça, chaque personne peut le faire. Peut-être quelqu'un nous écoute en ligne et qui est en prison. Tu peux rayonner en prison, mon frère ou ma sœur. Tu es peut-être tout seul isolé dans ta maison. Tu es peut-être dans une maison de retraite. Tu peux briller dans ta maison de retraite. L'environnement va changer. Ton rayonnement peut être différent que ce que tu as vécu il y a 20 ans. Mais Dieu est toujours constant et Dieu t'appelle à briller en tout temps. Amen. Amen. Et je veux adresser cette vérité-là à chacun d'entre nous. Je veux adresser cette vérité-là parce que justement, peu importe le contexte, l'environnement, la saison dans laquelle vous êtes, c'est le temps de briller. C'est vraiment le temps de briller. C'est pas le temps de dormir, c'est le temps de briller. Briller en tout temps. Et savez-vous quoi? Votre rayonnement, votre sphère d'influence n'est pas votre identité. Elle est la saison dans laquelle vous vous trouvez. Je répète ça. Le rayonnement que vous avez dans votre vie, ce n'est pas votre identité. Le rayonnement que vous avez est beaucoup plus relié à la saison dans laquelle vous vous trouvez présentement. Que Dieu vous place à l'endroit spécifique où il vous place. Vous devrez entendre un amen à ça. Parce que des fois, avec les médias sociaux, avec l'espèce de vedettariat qu'on peut avoir, l'identité est forgée sur le nombre de rayonnements ou le nombre de likes ou le nombre de personnes qui suivent, qui follow, qui unfollow, whatever. Oui, je l'ai dit. Et on a l'impression que le succès est basé sur l'influence, le succès est basé sur l'étendue du rayonnement, alors que l'Évangile ne consiste pas à ça. L'Évangile consiste à briller à l'endroit où est-ce que Dieu nous place. Et si vous regardez d'un couvert à l'autre des Écritures, vous voyez ces disciples, vous voyez ces histoires-là, Dieu appelle des hommes et des femmes à briller dans des contextes variés, peu importe la saison. Peu importe la saison. Ce que tu as à discerner, c'est pas si tu dois briller ou non. Ce que tu dois discerner, c'est dans quel contexte tu dois briller. Amen. Jésus va dire la chose suivante, et c'est Jésus qui le dit dans le sermon sur la montagne, il va dire, « Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sous un support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent les gloires de votre Père céleste. Et je peux réitérer, pour faire du pouce sur ce qu'on a fait tantôt, je peux réitérer que notre frère Éric, notre sœur Ginette et tellement d'autres qui ont contribué à notre projet de construction ont vraiment brillé dans le processus dans lequel Dieu les plaçait et on peut vraiment s'en réjouir. Parce que dans le contexte où est-ce qu'on était, dans la situation qu'on se trouvait, on a été capable de briller et il y a des gens, des hommes et des femmes qui ont brillé fort dans cette saison-là, dans cette période-là. Des hommes et des femmes comme Éric et Ginette nous donnent en Jésus cette opportunité unique et incontournable aujourd'hui. Et cette opportunité, je l'appelle le temps de briller. Le temps de briller. Et laissez-moi vous partager mon cœur concernant le Carrefour, concernant notre Église. Dans les derniers mois, on a vécu notre 50e. On a appris que lorsqu'un édifice est perte totale, il est plus difficile de briller comme avant. Vous savez, on était habitués de faire toutes sortes d'œuvres sociales à ce moment-là, intégration, partage de nourriture, il y avait toutes sortes de choses qui faisaient. Mais là, à un moment donné, tout le bâtiment, piou, disparaît. On est dans une précarité, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Et honnêtement, notre rayonnement n'était pas le même à cause des circonstances dans lesquelles nous étions. Vous êtes d'accord avec moi? Il y avait des choses qu'on était habitué de faire qu'on ne pouvait plus faire. Il y a des choses qu'on avait comme priorité qu'on ne pouvait plus avoir comme priorité à cause des circonstances puis à cause de tout ce que ça impliquait. Puis il y a des gens ici qui sont nouveaux dans l'Église, vous ne savez pas de quoi je parle. Faites juste essayer d'imaginer. Si demain matin, là, vous étiez la personne qui recevait toute la famille à toutes les semaines, votre maison passe au feu, vous allez avoir besoin de faire quelque chose de différent que de recevoir toute la semaine à l'hôtel temporaire pendant que vous reconstruisez la maison. Comprenez un peu l'idée, l'image ici. Cette image-là, c'est qu'on ne pouvait pas faire exactement ce qu'on avait à cœur ou ce qu'on était habitué de faire. Et ça a été une saison. Ça a pris beaucoup de travail pour monter la tête hors de l'eau. On était d'un endroit à l'autre, guidé par Dieu constant qui est toujours là. Et je crois que Dieu était en train de changer la trajectoire qu'on était en train de prendre. Il était en train de nous repositionner pour une éventuelle nouvelle saison. Amen. Une histoire qui se développe encore aujourd'hui, une histoire d'un Dieu qui sait exactement ce qu'il fait, l'histoire d'un Dieu qui sait qu'il y a des moments pour toutes choses, un Dieu qui attend pour nous émerveiller. Et c'est drôle parce qu'il y a comme, je vais vous faire une annonce, puis je veux juste que vous ayez en tête cette idée-là que Joseph, il y a tout un cheminement, puis c'est comme si Dieu le ramène à la case départ devant sa famille. Vous comprenez un peu ce que j'essaie de dire là? C'est comme s'il y a une deuxième opportunité, puis c'est comme s'il y a une loupe qui se fait, puis qui revient, pouf! À l'endroit initial, au point de contact initial, qui est sa famille. Et là, voici l'humour de Dieu, la souveraineté de Dieu et le dessein de Dieu. Et je vous annonce ça comme ceci, OK? Dans les dernières semaines, j'ai eu beaucoup de discussions. J'étais actif dans mes discussions avec deux assemblées qui ont vu leur entente de location être résiliée. En effet, il y a une église proche de nous, mais il y a aussi l'église Vie Abondante, notre église fille. Une église qu'on a implantée en 1997 et la semaine même du feu nous accueillait le dimanche suivant dans leurs locaux pour nous sauver les fesses parce qu'on ne savait pas où aller avec une église avec beaucoup de personnes. En fait, l'église Vie Abondante, ils ont perdu l'accès à leur lieu de culte habituel qui se situait dans une école de la ville de Québec. Alors, mes discussions me mènent à vous annoncer qu'à partir de mars prochain, l'Église Vie Abondante qui nous avait accueillis à bras ouverts, bien, c'est à notre tour de l'accueillir dans notre bâtiment. En fait, l'Église Vie Abondante revient à la maison et tiendra ses cultes au 10-15 rue des Gadelles les samedis matins. Alors, l'équipe d'Eva va continuer à faire des recherches pour un bâtiment dans le secteur de Sainte-Foy. Alors, c'est une entente qui est temporaire, c'est-à-dire on n'a pas signé un bail de 20 ans, là. C'est une entente temporaire, mais on prévoit tout de même les accueillir pendant une période de 12 mois Parce qu'on sait, nous autres, qu'est-ce que ça prend comme délai pour avoir des permis, pour avoir toutes sortes de démarches nécessaires pour l'acquisition et la rénovation d'un éventuel endroit. Alors, c'est une très grande joie pour nous comme Église de pouvoir aider, soutenir et vraiment soutenir l'œuvre de Dieu en les bénissant. Alors, c'est une belle collaboration qui se prépare et c'est merveilleux de tout ça. Alors, ça, c'est l'humour de Dieu. L'humour de Dieu. Il nous accueille, puis finalement, c'est à notre tour. Et il y a quelque chose de... Dans mes discussions avec Pasteur Benoît, il y a quelque chose qui émergeait, ça disait, ça sent le royaume, ça sent l'évangile. Ça sent quelque chose de plus que juste un échange de bons services. Vous êtes avec moi là-dessus? Amen. Alors, il y aura toutes sortes d'ajustements, vous en conviendrez, mais on croit que c'est littéralement l'appel de Dieu à briller pour notre communauté, dans notre communauté chrétienne dans la ville de Québec. Et justement, dans mes discussions récentes avec Éric, on se rappelait du début de la construction, puis qu'est-ce qu'on partageait ensemble comme cœur pour cet éventuel bâtiment qui n'avait même pas une pelletée de terre encore de donner, là. Et je me rappelais de cette discussion avec lui et il y avait cette conviction de toute l'équipe que ce bâtiment devait servir à la grande communauté chrétienne de Québec. On a prié pour ça, on a espéré ça et Dieu a exaucé nos prières. Et savez-vous quoi? C'est le temps de briller pour nos frères et sœurs dans la foi. On est dans cette saison-là, mes amis. On est dans cette saison de briller. Amen. Amen. Galates va dire la chose suivante. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa propre nature récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'Esprit récoltera de l'Esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien. » car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne relâchons pas. » Écoutez bien ce verset 10, là. « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, » ça sonne une saison, ça, hein? « Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. » D'autres passages vont parler de nos frères dans la foi. Et savez-vous quoi? Ce qu'on est en train de faire avec Eva, c'est juste de répondre à ce que la parole nous demande. Puis on le fait avec un cœur joyeux aussi. On le fait pas juste, oh là, non. On est vraiment enchantés et bénis, heureux de pouvoir contribuer à ce que Dieu fait dans leur Église. Alors, depuis le mois d'octobre dernier, ce qui brûle sur mon cœur, c'est vraiment d'atteindre notre communauté. Et c'est justement, c'est vraiment de briller pour notre communauté. Puis honnêtement, je vais vous dire, j'ai été un petit peu surpris par toutes les démarches puis tout ce qui s'est passé dans le processus. Parce que dans mon cœur à moi, il y avait cette idée, on a besoin de briller pour notre communauté de la ville de Québec. Mais Dieu m'a ramené à travers mes discussions au fait que Dieu nous appelle aussi à briller pour notre communauté chrétienne de la ville de Québec. Et la semaine prochaine, je vais vous partager mon cœur pour ce qu'on a en tête pour notre communauté dans notre ville. De gens justement qui n'ont pas encore découvert Jésus, mais on veut être une pleine bénédiction pour la ville de Québec. On veut être une pleine bénédiction pour notre environnement. On veut être une pleine bénédiction. Il y a plusieurs personnes qui ont prophétisé sur le carrefour qui allait être un phare. Et un phare, il y a quelque chose que tu ne peux pas être un phare si tu n'as pas. Là, vous dites de la brique? Non. Si tu n'as pas de lumière, tu n'es pas un phare. On appelle ça une tour. Mais si tu veux être un phare, il y a une lumière qui brille 24 heures sur 24. Et moi, je crois que le carrefour est positionné pour justement agir comme un phare et pouvoir être une pleine bénédiction pour notre ville. J'ai dans mon cœur très fort que le bâtiment ici serve comme lieu d'accueil autant pour les chrétiens que ceux qui ne le sont pas encore. Et j'aimerais faire la remarque suivante dans tout ça, alors que je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Dans tout ça, Dieu nous rappelle quelque chose, et Dieu a rappelé quelque chose dans mon cœur. Dieu nous rappelle que nous ne possédons pas un bâtiment. Dieu possède un bâtiment et nous demande de le gérer pour être une bénédiction pour les autres. Vraiment. Des fois, on peut dire, hey, on a un beau bâtiment, c'est génial, ça nous appartient. Puis oui, si vous regardez les titres puis tout ça, mis à part la petite dette qui est associée, on est propriétaire. Comprenez? Mais nonobstant ça, c'est quand même notre nom qui est sur le document. Mais dans le monde du royaume, Dieu s'est construit un bâtiment et nous sommes appelés à en être les bons gestionnaires. Amen. Et ça, c'est vraiment ce que je veux qu'on développe dans notre cœur comme assemblée, cette idée-là qu'on veut briller pour que ce bâtiment-là, justement, comme on a fait à la dédicace, nous voulons que ce bâtiment-là serve à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alors, chers amis, il est temps de briller et j'espère que dans votre cœur, dans votre esprit, dans vos pensées, vous serez unis à nous, justement, alors qu'on a pris le choix d'aimer nos frères et sœurs dans la foi, même si ça coûte des ajustements, du travail, peut-être certains inconforts. Mais moi, je crois que le texte de Galates est clé. Ce qu'on va semer, vous savez qu'est-ce qu'on va faire? On va le récolter. Et l'Évangile, c'est de semer. Puis de s'attendre à Dieu que c'est lui qui nous fait récolter à l'endroit où vaut bien qu'on récolte. Hein? Ce n'est pas nous autres qui décident ça. Mais c'est notre vision des prochains mois. Et je vais l'appeler, c'est le temps de briller, vraiment. Et je souhaite de tout cœur que vous soyez avec nous là-dedans, de dire, OK, on a une saison où est-ce qu'on avait besoin de se relever, et maintenant, il y a une saison dans laquelle on a besoin d'avancer et de briller. Amen? J'espère que vous êtes avec moi là-dessus. Comme Église, comme individu, on a cet appel-là de briller en tout temps, d'accepter que notre rayonnement est différent selon les saisons, mais de faire confiance à un Dieu infiniment constant. Dans notre processus de construction, je termine sur cette idée-là. Vous savez, dans notre processus de construction, j'ai été impliqué pas mal dès le départ, j'ai été là-dedans quand même. Et puis, j'ai fait des recherches, j'ai fait des lectures sur c'est quoi une construction, comment ça marche, qu'est-ce qui se passe. Et il y a une grande peur qui s'est saisie de moi alors que j'ai lu ces documents-là. Là, vous dites, Jean-Fred qui avait peur, ah, il devait avoir peur pour les finances. Non, quelqu'un d'autre a eu peur à ma place. Ah, peut-être qu'il a eu peur qu'on ait un bâtiment de qualité. Non, quelqu'un d'autre a eu peur de ça à ma place. Mais moi, il y a une phrase que j'ai lue qui m'a saisi et j'étais là. Je veux lutter contre ça avec tout ce que j'ai. Et la phrase était la suivante. Dans une des lectures, ça disait, de façon générale, une église qui construit un nouveau bâtiment, lorsque la construction est terminée, naturellement, l'église va s'asseoir, regarder le bâtiment et dire « Waouh, on a accompli quelque chose, mais cette église-là va stagner pendant des mois et des années parce qu'elle va regarder ça comme « Waouh » plutôt qu'utiliser l'outil qui nous a été placé dans nos mains. » Et ça, j'aimerais vous dire la chose suivante, ça me fait peur, pas rien qu'un peu. Parce qu'il n'y a rien de pire que Dieu qui nous offre un cadeau puis on décide de ne pas l'utiliser pendant 3 ans parce que bon, hey, on s'assoit. Là, Éric, il a le droit de s'asseoir, puis il a le droit de se reposer. Il a le droit de prendre le temps de brûler toutes les feuilles qu'il veut brûler. S'il veut faire 1000 feux avec ses feuilles, il a le droit de faire 1000 feux avec ses feuilles s'il veut. Mais quand moi, je parle à Éric, puis que je lui dis « Hey, on va accueillir une église », vous savez qu'est-ce qui se passe dans son visage? Le sourire monte. Pourquoi? C'est pour ça qu'on a construit! C'est pour ça qu'on a un bâtiment! C'est pour ça qu'on l'a fait! Il y a des gens qui viennent me voir qui ont travaillé comme des fous sur ce projet-là. Ils viennent me voir le dimanche, je dis « Hey, pasteur Jean-Fred, as-tu vu ça, l'église se remplit? » C'est pour ça qu'on a construit, c'est pour que des gens entendent parler de l'Évangile de Jésus-Christ. Le meilleur hommage qu'on peut faire à ceux qui ont travaillé fort, c'est pas de leur donner une tape dans le dos parce que, vous savez, Éric et Ginette étaient gênés que je le fasse. Je l'ai fait quand même. Mais le meilleur cadeau qu'on peut faire, c'est de dire « On va se lever ensemble, puis on va faire en sorte que ce bâtiment-là serve à la gloire de Dieu. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez leur faire. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez me faire. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à Pasteur Paul et Christine. Celui de dire, « Hey, on va pas rester dans nos bancs à dire, « Hey, ils sont donc bien confortables, nos bancs. Oh, le tapis est tellement plus beau que l'ancien. Oh, le hall d'entrée, c'est le fun, on a du café. On s'en sac! On s'en fout du café! » Ce qu'on veut, c'est utiliser ce bâtiment-là pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi là-dessus? S'il vous plaît, c'est ça qu'on peut faire pour honorer ceux qui ont construit. Est-ce qu'on peut se réjouir qu'il y ait du café? Pas de problème. Mais ce n'est pas la mission première de notre Église. Là, je ne sais pas ce que je suis rendu dans mes notes. Là. Je vais jeter un papier à terre, OK? Comme dans le bon vieux temps. Je vais vous lancer un défi ce matin. Le défi, c'est est-ce que vous êtes prêts à dire on veut briller? Est-ce qu'on est prêt à dire ce bâtiment-là, c'est pas juste pour dire on est fier, on a un bâtiment. Et si ce bâtiment-là servait encore plus? Et peut-être que vous êtes dans une saison où est-ce que c'est vraiment tough. Mon défi, c'est est-ce que tu es prêt à briller même dans le lieu où est-ce que le feu est pogné? Puis ton rayonnement, ça appartient au Seigneur. Dieu élève les hommes, Dieu fait des choses, c'est lui qui décide. C'est pas à nous d'essayer. Là. Moi, là, j'arrive pas ici en disant on va rayonner sur l'entire America, toute l'Amérique au complet. C'est pas ce que je vous dis, là. Moi, je veux juste qu'on soit dans ce que Dieu veut qu'on soit. On veut rayonner dans l'environnement, dans ce que Dieu place devant nous. On ne se vante pas de nos affaires. On sait que c'est une grâce de Dieu. Si on a construit ici, ce n'est que grâce. Fait qu'on veut juste rayonner où est-ce que Dieu nous donne. Dire, nous, on veut être un phare que la lumière est toujours allumée. Puis le reste, c'est Dieu qui fait l'œuvre. C'est Dieu qui multiplie. C'est Dieu qui fait toutes sortes, tout ce qu'il veut faire. C'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à ceux qui ont construit. Celui de l'utiliser pour la gloire de Dieu. Je veux mettre au défi même nos leaders des différents ministères. Pas le défi de faire 10 choses de plus, mais le défi d'avoir dans son cœur cette idée qu'on a besoin de briller pour les autres. Briller pour l'Église Eva, briller pour les gens de notre communauté, puis on va s'en parler un petit peu plus la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Seigneur éternel, on est devant toi ce matin. Avec ce cœur qui t'adore, ce cœur qui est reconnaissant de ce que tu es le Dieu constant qui ne change jamais. Celui qui nous appelle à briller et celui qui s'occupe de mettre des gens autour de nous pour qu'on puisse rayonner. Alors Seigneur, je veux te prier que le Carrefour puisse continuer de briller d'une façon claire, d'une façon évidente, Seigneur, à ceux qui sont autour. Et ça, c'est pas juste un édifice qui le fait. L'Église, c'est chaque personne qui la compose. Alors, Seigneur éternel, je te prie de fortifier nos mains, Seigneur. Je te prie de fortifier nos cœurs afin qu'on puisse briller pleinement pour toi. Alors, s'il y a des obstacles qui se posent dans nos cœurs en disant « Oui, mais là, il y a telle chose », Seigneur éternel, je te prie que tu nous rappelles comment tu veux que chacun d'entre nous puissions briller. Dans chacun, cet appel que tu places dans nos vies, avec ces mandats, ces œuvres préparées à l'avance que tu places dans nos vies. Jésus, je te prie pour ta pleine bénédiction sur notre présent, sur notre avenir, sur l'Église Vie Abondante, sur le Carrefour, sur toute autre église de la ville de Québec. Nous te prions, Seigneur, pour ta grâce et ta bénédiction sur chacun, que chaque église puisse être justement une lumière allumée, Seigneur, pour que notre ville puisse connaître Jésus-Christ. Alors, Seigneur, on te remercie, Seigneur. On te remercie pour toutes choses et je te prie, Seigneur, que tu puisses éclairer nos cœurs afin qu'on puisse être pleinement lumière autour de nous. Et tous ceux qui veulent briller, disent « Amen » avec moi. Et « Amen ». Amen.